Bonsoir chers auditeurs et bienvenue au forum du studio Kalangu. Le mariage est une union conjugale contractuelle à durée illimitée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. À l'instar des autres pays, le Niger a pris des engagements internationaux pour la lutte contre le mariage précoce en adoptant des lois qui réglementent l'âge du mariage. Toutefois, on remarque aussi un célibat long des jeunes aboutissant au mariage tardif. On observe un net déclin de l'âge moyen au premier mariage, puis l'émergence d'un niveau significatif de célibat probablement défini en particulier chez les femmes. Dans le forum d'aujourd'hui, nous allons parler du mariage tardif, causes et conséquences. Je suis Rafika Taher et pour une analyse profonde du thème, nous avons convié Dr Boubacar Seydou Touré, consultant islamologue et membre de l'Association islamique du Niger, et de Mohamed Moussa, sociologue. Au Niger, les hommes entrent en première union à un âge plus tardif que les femmes selon l'enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples de 2012. Nous allons commencer par vous, docteur Touré. Quelle est la période propice pour se marier et selon la religion?
Louange à Allah, Seigneur de l'univers, par essence et par excellence. Nous prions Allah le Tout-Puissant de nous guider sur le bon chemin et surtout de pardonner nos péchés. Et donc, comme vous le dites, en islam, on ne peut pas dire que vraiment il y a un âge qui est arrêté, mais l'âge idéal, c'est, vous savez que les filles, comme les garçons, il y a au moins un changement corporel. Ça, c'est à travers ces signes, changement corporel, qu'on peut dire telle fille et peut se marier, ou telle garçon peut se marier. Mais, en prenant vraiment en compte maintenant, vous savez, maintenant, avant, c'était même jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à l'âge de 15, vous pouvez dire, les femmes restent comme vraiment des femmes. Mais aujourd'hui, les filles, à l'âge de 10 ans, s'il faut dire, ils connaissent ce que c'est vraiment déjà le mariage. Donc, pour cela, il faudra voir les choses clairement. Parce qu'il faut retarder le mariage, parce que pourquoi l'islam dit vraiment, il faut, c'est précis pour ces mariages, c'est juste pour éviter vraiment de commettre l'irréparable, c'est de commettre des péchés. Vous savez, surtout aujourd'hui, avec les médias, les jeunes voient ce qu'ils voient et d'autres tentent même vraiment d'expérimenter cela. Raison pour laquelle l'islam a dit non. Quand les enfants arrivent à l'âge de puberté, on n'a plus vraiment le temps vraiment de le garder. Soit disant par manque de fou, ou bien vraiment par manque de ceci, cela. Raison pour laquelle, on peut dire en islam, il n'y a pas un âge qui est arrêté. Mais souvent, l'âge qui est arrêté, c'est à travers le changement corporel vraiment des jeunes.
Il n'y a pas une estimation en âge propice de se marier? Comme vous l'avez dit, à 10 ans déjà, il y a des jeunes filles qui développent déjà beaucoup de choses de femmes. Mais je pense que c'est quand même interdit. Il n'est pas recommandé de marier une fille de 10 ans.
Mais ce qu'il faut se dire dans la tête aussi, les filles là qui ont 10 ans, vous dites que c'est interdit de se marier. Mais il y a combien de filles de 10 ans qui sont en train de tomber enceintes? Est-ce que cela, on peut pas, pourquoi on n'est pas interdit cela? Raison pour laquelle je dis, on ne peut pas dire qu'en islam, voilà tel. Mais, dès que la fille peut supporter les charges du foyer, il faudra donner en mariage. Sinon, pour ne pas tomber dans ce qu'on ne souhaite pas.
Merci pour cette précision, docteur Touré. Monsieur Mohamed, pourquoi se marie-t-on de plus en plus tardivement au Niger? Quelles sont les raisons?
Bonjour. Les raisons, je pense que, comme il vient de le dire, ne sont certainement pas culturelles chez nous. Je pense que le mariage tardif, qu'il soit chez les jeunes filles ou chez les garçons, est lié à d'autres facteurs qui ne sont pas nos facteurs à l'origine. D'abord, le premier facteur, c'est la scolarisation. La scolarisation de la jeune fille, une fille qui est à l'école, on comprend qu'elle reste encore quelques années, pendant longtemps, à l'école 16, 17 ou même 18 ans ou plus, en fonction de ses études, sans être marié. Parce que chez nous, on pense que quand vous êtes marié, déjà, vous n'avez plus la possibilité d'aller à l'école. Donc, c'est aussi l'école qui explique le retard du premier mariage chez les garçons. Parce que le mariage, d'un point de vue économique, c'est l'homme. Or, en milieu urbain, notamment dans le système actuel de scolarisation, il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut trouver un travail pour pouvoir supporter les charges liées au foyer. Donc, évidemment, le garçon aussi prend plus de temps à se marier parce qu'il lui faudra d'abord assurer le minimum, être capable de prendre en charge le loyer, parce que généralement les jeunes couples n'ont pas il faut louer une maison, et il faut prendre soin de sa femme et après prendre soin de ses enfants. Et tout ça là nécessite un certain nombre de diplômes, nécessite qu'on ait du travail. Et ce qui, par le passé, n'existait pas ou existait peu, parce que quand vous prenez le milieu rural, par exemple, déjà à 15 ans, 14 ans ou 16 ans, 17 ans, tout au plus, le garçon, il est productif, c'est un acteur économique parce qu'il participe aux travaux agricoles. Donc, on pense qu'il est productif.
Oui, mais monsieur Mohamed, dans la société d'antan, les hommes partaient aussi à l'école, les hommes cherchaient aussi des diplômes, mais se mariaient pourtant tôt. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qui fait que les garçons, comme vous le dites, se marient plus tardivement?
C'est aussi l'influence de la culture qui nous vient d'ailleurs. C'est l'influence de la télévision. C'est l'influence du téléphone. Quand je disais tout à l'heure que la prise en charge du foyer revient à l'homme, aujourd'hui, cette tendance est en train de changer quelquefois, quelque part en tout cas, où vous pensez, vous allez trouver des couples où on se partage les charges. Donc, vous voyez, ça crée beaucoup d'exigences que les garçons, pour trouver la femme idéale, prennent plus de temps. Parce qu'il faut chercher la femme qui soit capable de prendre en charge telle ou telle chose, ou tout au moins qui n'a pas trop besoin du mari pour se prendre en charge elle-même, satisfaire certains de ses besoins. Et il y a aussi... comme le disait Oustaz, cette idée qu'on nous a vendue, qu'il ne faut pas marier la fille très jeune, moi je ne dirais pas que je suis pour le mariage des très jeunes filles, mais quand même, si on interdit le mariage des jeunes filles, ça doit être accompagné de mesures qui permettent effectivement de protéger ces jeunes filles. Parce que, comme il le dit, la tendance c'est que on protège les jeunes filles contre le mariage, mais on ne les protège pas contre certains dangers qui les guettent hors du mariage. Aujourd'hui, quand vous sortez à Niamey autour de 23h00 dans certaines places de la capitale, vous vous rendrez compte qu'il y a trop de jeunes filles qui sont là. Tant les pouvoirs publics sont là, on regarde, on ne fait rien. Si on vous empêche de marier votre fille très jeune, et qu'on lui donne la possibilité d'aller faire ce qu'elle veut, je pense qu'il y a un problème.
Pour le cas de Niamey, M. Mohamed, on constate des coûts exorbitants pour les cérémonies de mariage et des dépenses ostentatoires. Est-ce que ça n'impacterait pas aussi sur ces mariages? Le garçon, il peut décider de ne pas se marier justement à cause de ces coûts?
Oui, ça fait partie... des facteurs qui expliquent le mariage tardif. Parce que c'est toujours le facteur économique où souvent la charge pour les cérémonies de mariage, c'est des charges très énormes. Il faut faire cela, il faut faire ceci. Et donc, du coup, il faut qu'on prenne assez de temps pour se préparer pendant des années, généralement les gens vous regardent faire. Donc ça prend du temps.
Socialement, est-ce que c'est nécessaire?
Socialement, c'est pas nécessaire parce que j'allais en venir. Aujourd'hui, quand vous prenez, c'est toujours le facteur économique le problème. Quand vous prenez, même dans les campagnes sont en train de changer de mouvement. Et cela s'explique par le fait que avant, le trousseau de mariage n'était pas aussi difficile à constituer. Le trousseau de mariage est fait vraiment de manière assez simple. Mais aujourd'hui, ce que les jeunes mariés veulent avoir, ça demande énormément de moyens. Et vous voyez l'afflux des jeunes filles migrantes qui viennent servir de bonnes à Niamey, par exemple. À plus de 80% des cas, c'est lié à ce facteur. C'est des jeunes filles qui viennent pour chercher de quoi constituer leur trousseau de mariage. Parce que le trousseau de mariage était constitué par les parents, par le passé, et ce n'était pas grand-chose. Aujourd'hui, ça demande beaucoup de moyens, d'une part, et d'autre part, les parents se sont appauvris avec les changements climatiques, parce qu'en milieu rural, la richesse, c'est d'abord la terre. Donc, s'il y a problème de production, évidemment, les gens s'appauvrissent. Donc, les parents n'arrivent plus à assurer ces dépenses. Les jeunes filles sont obligées de venir en ville travailler pendant des années, pouvoir constituer leur trousseau de mariage. Aujourd'hui, vous allez voir dans des villages où on vous dit il faut acheter ce qu'ils appellent le salon. Il faut acheter un lit de 400 ou de 300 et quelques mille dans une case. Est-ce que c'est nécessaire? Donc voilà ce qui explique les mariages tardifs chez les jeunes filles. Mmh. Chez les jeunes garçons aussi, c'est que le garçon doit se débrouiller lui-même pour chercher tout.
Il n'y a plus l'aide des parents qu'on a remarqué il y a quelques temps.
Il n'y a plus l'aide des parents parce que les parents se sont généralement appauvris. Et aussi, il y a une culture d'individualisation. Aujourd'hui, les grandes familles, on en rencontre assez peu. Il y a une forme de dislocation des grandes familles.
Docteur Touré, que recommande la religion pour célébrer les mariages?
Avant de revenir à ça, il faut savoir que le mariage, d'abord, c'est une obligation. Une obligation d'où Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Saint-Coran, il dit, mariez-vous d'abord, que ce soit veuve ou veuf, mariez-vous ces gens-là d'abord. Et en plus, il dit, et les bons hommes parmi vous, et d'autres qui sont avec vous. Alors, le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam dit, il exhorte, il dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a l'âge de puberté, qu'il se marie. Et s'il n'a pas le moyen, s'il ne peut pas se marier, que le jeune, cela va le garder contre les dangers qu'on nous craignons. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a une question, soit pour finir l'école, mais l'islam n'accepte pas cela. Tu peux finir. Vous avez demandé avant, ça se faisait. Mais pourquoi pas maintenant? Parce qu'avant, il y a une question d'éducation. Vous avez demandé qu'est-ce qui retarde. Ce qui retarde sont vraiment parce que les gens ont tendance à avoir un grand moyen pour se marier. Et nous savons, au temps de Faye Kounthié, Kounthié avait mis des barèmes. Et là, tout le monde l'acceptait, de village jusque dans les villes. Mais depuis un certain temps, on a laissé, et même ceux qui gouvernent, ceux qui doivent diriger les choses, c'est eux-mêmes qui font des grands tapages. Tu vois, un enfant de ministre ou un enfant de député, mais si c'est là, en se mariant, vous allez voir, c'est des douzaines de millions, c'est vraiment, c'est des voitures, c'est d'ici là. Et pourtant, on nous continue. Autant, alors, c'était les 50 000. Et ce qu'on s'est passé vraiment, les uniformes, les six, c'est là. Aujourd'hui, c'est même changé, pour amener la dot, il faut faire des méchouis, il faut faire des valises. Mais c'est pour vous dire que c'est pour décourager le jeune et pour freiner. Toi, le petit, pauvre, tu n'as rien. Et tu tombes dans une famille, on va dire non, il faut amener ceci. Même la droite, on peut exiger, il faut amener 1 million ou bien plus d'un million. Et voilà des choses qui freinent, qui fait que maintenant, le jeune ne se précipite pas pour se marier. Parce qu'on va dire, ah, tu as combien? Même si j'ai la fille que vraiment j'ai, je veux vous amener 300 ou 400 000 de quoi? Tu penses que tu vas acheter une chèvre? Mais c'est devenu comme ça. D'autres fois, on ne peut pas, les gens n'ont pas plus le courage.
Est-ce que ces coûts élevés sont vraiment nécessaires, religieusement parlant?
Ce n'est pas, c'est même interdit. Mm-hmm. Parce que le prophète Mohammed a dit, donner le peu dans la sadaq, ça va bénir le mariage. Mais quand vous mettez beaucoup de sous, wallah, il n'y aura aucun effet et vraiment ça va détruire. Mais on peut lui dire maintenant, il faudra que les gens chassent, il faudra qu'ils comprennent. On n'est plus dans un moment de tapage. Même avant, parce que quand on dit que tel dans votre famille, tel se marie, les gens se retrouvent et on accompagne les parents. Mais aujourd'hui, que ce soit du côté des jeunes filles ou des jeunes garçons, il n'y a plus cet accompagnement. Parce que les gens, maintenant qu'on vient de le dire, on est venu déraciner. Chacun dit moi et ma famille. Et maintenant, ce qu'on fait dans le mariage, dans les walima. Les walima, ce sont ceux qu'on est en train de faire, les fouindi là. Donc les fouindi, il faut même interdire cela. Parce qu'il faut voir, tu vas voir en un seul jour, les gens vont gaspiller ce qu'on doit manger pendant 3 mois. Sinon plus même. Et pourtant, personne ne parle. Et demain, ce jeune marié, s'il a dans des problèmes, peut-être n'a même pas une maison, parfois on exige même d'aller prendre une villa. Il y a des parents qui exigent cela. Le monsieur va dire, ah, j'ai au moins une célibataire. Non, ma fille ne va pas dans une célibataire. Il faut prendre. Mais est-ce que cela veut dire que vraiment vous êtes en train de faire vraiment ce que vraiment l'islam dit? Et pourtant, nous sommes à 90% musulmans. Nous devons prendre le bâton pour interdire le gaspillage dans nos mariages, parce qu'Allah a dit qu'il n'aime pas ceux qui gaspillent.
Justement, quel comportement les parents des jeunes mariés doivent adopter?
En matière de mariage en islam, d'abord, on veut initier les enfants d'abord. Initier les enfants au mariage, parce que le mariage, c'est pas ce que nous sommes en train de faire. Hein. Parce que le mariage, on prend, les enfants ne se connaissent même pas, on leur donne. Sans vraiment avoir les parents. Je viens de dire, parce qu'il y a un truc qui est très important que nous avons complètement écarté. On l'a écarté, parce qu'aujourd'hui, votre fille veut se marier, votre garçon peut se marier, aucun d'eux ne connaît les membres de la famille. Peut-être le jeune mari ne connaît que ses beaux-parents seulement, sa maman, son frère et puis sa soeur, et de l'autre côté. Donc maintenant, ce qu'il faut se dire, nous devons nous remettre ensemble, comme je viens de le dire, parce que sans solidarité, parce que le mariage c'est une question de solidarité, sans cette solidarité, il n'y aura pas de réussite. Parce que maintenant, je viens de le dire aujourd'hui, 400 000, maintenant c'est des millions. Et ça incombe non seulement aux hommes, et surtout maintenant, avant c'est les hommes qui amènent. Mais aujourd'hui, quand on dit que ta fille se marie, tu as tous les problèmes du monde. On veut, il faut amener valise, je peux dire valise, il faut amener de lit, il faut acheter télé, il faut acheter cela, il faut embellir la maison. Mais ça c'est un problème. Et celui qui n'a pas, comment il peut oser? Mais pourtant avant, les gens, on a donné la permission aux filles de se marier, même si vous êtes au collège, pour marier, mais à condition que vraiment le mari accepte que cette dernière finit ses études. Et sans problème. Mais maintenant, tout ça là n'existe pas. Aujourd'hui, le mariage est devenu une sorte de jeu entre les enfants. Les parents ont démissionné totalement. Parce qu'aujourd'hui, qu'on dit, ah, les enfants sont entendus. Sur la date, ils sont entendus. Sur la date de mariage, ils sont entendus.
C'est les enfants qui décident.
Même maintenant,
en quelque sorte.
C'est même ça. Et surtout encore, comme je l'ai dit, on ne connaît personne de la famille. Et pourtant, dans l'ancien temps, pour te marier avec une fille ou avec un garçon, il faut faire le tour. Connaître tous les parents. Cela veut dire que tout le monde est impliqué dans ce mariage. Mais aujourd'hui, comme il vient de le dire, les gens sont écartés. Le mariage ne concerne que ces deux familles seulement, la famille de jeunes mariés et de la jeune mariée. Puis c'est tout. Donc il n'y a aucune vraiment assistance. Il n'y a aucune solidarité dans ce même. Déjà, ce qu'il veut me dire, il faut venir manger seulement.
Juste pour un peu rajouter dans ce qu'il vient de dire. Avant, s'il y a un mariage, il y a des témoins. Du côté de la jeune fille et du côté du garçon. Ce témoignage, Oustaz est là, il en connaît mieux. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit, c'est pour être garant et c'est pour régler des problèmes éventuels qui peuvent survenir dans le mariage. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et l'intérêt, comme il vient de le dire, que le mariage, en principe, ce n'est pas une question de deux personnes. C'est une question de deux familles. Quand vous êtes avec votre conjoint, avec votre femme ou votre mari, parfois, vous avez des problèmes entre vous. Mais vous pouvez laisser passer ces problèmes parce que vous avez honte du frère, de votre mari, ou parce que vous respectez un membre de sa famille. En tout cas, il y a toujours ces liens de proximité qui font que les mariages par le passé résistaient mieux qu'aujourd'hui.
Mais quand c'est une affaire... Est-ce que tous ces facteurs peuvent entraîner les mariages tardifs?
C'est lié à ces facteurs parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes le seul à choisir votre femme, à la chercher. Vous êtes la seule à choisir votre mari. Les membres de la famille ne sont pas impliqués et même quand ils le sont, c'est vraiment à un degré moindre. Il y a beaucoup de critères, je l'ai dit, qui entrent en ligne de mire aujourd'hui. L'essentiel, c'est le critère économique. Les gens parlent de mange-mille. Ça, c'est une expression courante chez nous. On ne veut pas prendre une mange-mille. Une mange-mille, c'est-à-dire une femme au foyer qui est sans emploi, qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas fonctionnaire. Donc, on l'évite. Il faut chercher une femme avec des diplômes, avec un emploi, avec un salaire. Et pour trouver cette femme, ça prend du temps.
Pour la convaincre,
ça prend du temps parce que justement, elle a aussi ses exigences. Et quand le mariage, finalement, est scellé, c'est aussi difficile dans le couple. Parce que on ne sait plus qui est qui. Qui est qui dans le sens, qui est l'homme, qui est la femme. Parce que la femme, si elle prend en charge des choses que le mari est censé prendre en charge, ça inverse les rôles. Quand je dois prendre en charge le loyer, je dois prendre en charge mes factures d'électricité, d'eau, je dois prendre en charge tout ce qu'on appelle les charges de souveraineté pour un homme. Alors, si je les partage avec ma femme, évidemment que je perds aussi une partie de mon autorité. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y aura des rapports assez conflictuels. Et voilà, c'est ce qui explique que vous allez voir les mariages de ce genre ne durent pas longtemps. Et comme il l'a dit, les mariages qui font plus de tapages avec des millions de dots, suivez ces mariages pendant un temps, un an, deux ans, trois ans. Vous allez voir que c'est des mariages qui n'ont pas d'avenir parce que on pense toujours à ce qu'on a investi. Donc, au moindre faux pas de la femme, tu vois ton argent. Or, ça ne doit pas aller dans ce sens. Le mariage, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'intérêt économique. Non, c'est bien au-delà.
Merci, Monsieur Mohamed. Nous allons maintenant écouter quelques témoignages sur les raisons qui pousseraient ou non les jeunes à se marier.
J'ai 23 ans. J'ai pas l'intention de me marier cette année parce que les hommes de maintenant n'amènent pas assez d'argent pour la dot. Si la personne travaille, elle peut aider ses parents. Franchement parlé, tous ceux qui refusent d'amener assez d'argent pour la dot, je n'accepterai pas. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas me marier maintenant. Je préfère continuer mes études et avoir un travail. Après, si la personne est d'accord, nous pouvons nous marier.
Je suis élève et j'aimerais bien me marier. Si ma famille prend l'engagement de me financer le mariage, je vais abandonner l'école. Tout d'abord, le temps avance. Donc, marions-nous tôt, au moins pour voir sa progéniture, même si c'est 5 enfants. Si tu ne te maries pas tôt, tu penses aux voitures ou au matériel. Si tu décèdes, c'est fini. Mais si tu es marié, tes enfants pourront bénéficier de ton héritage.
J'ai eu 3 prétendants. Je ne suis pas satisfaite de la somme d'argent qu'ils m'ont proposée, parce que mes parents n'ont pas les moyens. Si l'argent de la dot ne suffit pas, ça serait impossible, parce que tout est cher. Il faut au moins que la personne amène 750 000 pour la dot. Et je serai d'accord.
Me marier, tu n'as pas où loger. Est-ce que tu peux penser au mariage? Ce n'est pas possible. Si tu veux te marier, tu dois fournir l'effort de construire ta propre maison. Là, tu n'auras aucun problème. Mais tu vois aujourd'hui, si tu n'as pas ta maison, au nom de Dieu, tu vas souffrir. Parce que même si tu te maries, la location de la maison peut te coûter 30 à 50 000, etc. Si tes affaires ne marchent plus, ta femme va te quitter. Donc le mieux, c'est de construire et de bien se préparer. Le mariage, ce n'est pas un bonbon. Hey. Tu dois tout avoir avant de te marier et bien loger ta femme.
Voilà, docteur Touré, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages qu'on vient d'écouter?
Voilà ce que nous sommes en train de dire et en train de sortir là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, un, parmi les facteurs qui nous poussent à retarder ces mariages, on l'a cité, c'est la pauvreté, c'est vraiment attendre de finir ses études, c'est travailler. Mais ce qu'il faut comprendre, je l'ai dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith de Anas ibn Malik, il a dit, ne cessez d'orienter, de faire pression sur ses compagnons et ses enfants de se marier. Et il insistait vraiment de ne pas tarder le mariage. Ça, c'est donc, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, on doit se marier tôt, on doit le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, le bon Moïse nous a dit quelque chose qui est très important et que je viens d'en entendre aussi ici tout de suite. Pour marier une fille, on la marie pour 4, il y a 4 critères à prendre. La première chose, on peut marier une femme pour sa beauté. On peut marier une femme pour sa richesse. On peut marier une femme pour sa classe sociale. Et on peut marier une femme pour sa religion. Mais si on voit à travers ça, quand tu maries une femme, comme d'autres viennent de le dire, j'ai pas d'argent. Mais il faut savoir, quand tu maries une femme pour sa richesse, Allah ne fait que toujours t'enfoncer dans des problèmes. C'est ce que le prophète a dit. Parce que toi, tu as une seule philosophie, c'est profiter de sa richesse. Mais maintenant, ce que je viens de dire, on ne peut pas tarder le mariage pour finir les études, ni pour construire, ni pour autre truc qui n'a rien de sens. Donc, il faut savoir que le mariage, on doit prendre le côté positif. C'est qu'ils disent que non, elle, c'est pas tel montant. Elle ne va pas se marier, qu'elle se détrompe. Le peu, là, même si on t'amène 100 000, 200 000, quand tu prends ça, Allah mettra de baraka dans ça. Et c'est ce que le prophète Mohammed nous a dit et a attiré l'attention des musulmans. Quand vous voulez faire marier vos filles, demandez le peu. Ne mettez pas, n'exorbitez vraiment le montant. Si c'est la dot, si vraiment c'est l'organisation du mariage, faites quelque chose de symbolique. Pourquoi? Aujourd'hui, ceux qui mettent des millions dans ce mariage, et si on gardait ces millions-là pour le jeune marié sa femme, est-ce qu'ils auront des problèmes? Même si la personne ne travaille pas, au moins, ils auront au moins 1 an. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait le manger. Ce sont ces millions-là. Les parents amenaient le manger pour 1 an. Même maintenant, il y a des parents qui le font. Il y a des régions qui le font. Il y a des régions, quand tu maries, quand tu prends une fille, on va t'amener au moins ce que vous allez manger pour 1 an.
Gara, comme le disent les Haoussa.
Voilà. Oui, donc maintenant, mais c'est ce que l'islam dit. Mais aujourd'hui, comme mon frère vient de le dire, Mohamed vient de le dire, il faut savoir que on est déraciné. Nous sommes en train d'emboîter le pas des Occidentaux. Tu te maries, on va faire des cocktails, des ceci, cela. Et tout le monde vit aux uns des autres. Personne ne parle. La raison pour laquelle, ce qu'elles sont en train de dire, ça, elles sont sur de mauvaises pistes. Et leurs parents doivent réencadrer. Parce qu'il y a des parents qui sont à la base de ça. Tu sais que moi, je suis pauvre. Ton papa n'a rien. Moi, je ne travaille pas. Ton mari va me mettre 350 000. On va acheter quoi? Même le matelas, même un seul matelas, deux matelas, c'est terminé. Comment on va préparer ta main? Donc, c'est les parents qui doivent vraiment soutenir les enfants. Ce n'est rien. Demandons la bénédiction de ce mariage. Et les gens font maintenant des business sur le mariage de leurs enfants.
D'accord,
et ça, vraiment, c'est un tort.
À vous maintenant, M. Mohamed, se référant à ces quatre témoignages que nous avons écoutés, un seul était pour le mariage. Donc, selon vous, comment faire revenir l'esprit des jeunes vers le mariage sans pour autant compter sur le matériel comme les autres l'ont soulevé?
Moi, je pense que dans les témoignages, j'ai même relevé quelques contradictions dans leur discours. Parce que il y a un qui dit que ses parents sont pauvres, sa mère n'a rien, son père n'a rien, donc forcément, il lui faut beaucoup d'argent pour se marier.
Un homme riche.
Voilà, un homme riche. Alors, là, il y a contradiction. Ses parents, certainement, ne se sont pas mariés avec beaucoup d'argent. Alors, ce n'est pas un critère de réussite pour le mariage. Mais le facteur qui explique tout cela, comme je l'ai dit, c'est lié aux dépenses du mariage. C'est lié au trousseau du mariage. C'est lié à la prise en charge même des cérémonies de mariage qui coûtent extrêmement cher. Donc, quand vous prenez 300 000 ou 400 000 francs de dot, jeune fille, vous voulez un lit de 500 000, vous voulez ceci, vous voulez cela, c'est compliqué. Donc, je pense que il faut éduquer les gens dans le sens de revoir à la baisse certaines dépenses non utiles. De travailler avec l'essentiel, que ce soit pour les cérémonies de mariage, que ce soit pour l'équipement des maisons. Ayons à l'esprit l'essentiel. Même les Occidentaux qu'on pense souvent copier, ils travaillent avec l'essentiel. Vous n'allez pas voir un blanc ou une blanche acheter des choses dont il n'a pas besoin. Quand vous allez dans nos maisons de jeunes filles, mais vous trouverez beaucoup de choses presque inutiles. On va acheter par exemple 100 tasses. Tu vas faire 5 ans, 6 ans, 7 ans sans en utiliser certaines. Ça sert à quoi? Quelle est l'utilité pratique? L'autre qui parle de construction de maison. Alors, entre économiser, avoir une parcelle, construire une maison, ou avoir de quoi payer la location d'une maison, quel est le plus difficile? Est-ce que prendre en charge la location d'une maison, c'est pas plus simple que de construire une maison? C'est pas à comparer. Donc, quand vous attendez d'avoir une maison, évidemment, vous allez prendre beaucoup d'années.
Quelles sont les conséquences liées à ces mariages tardifs?
Les conséquences liées à ce mariage tardif, ils sont multiples. Il y a le facteur démographique. Et là, je crois que quand vous vous mariez, vous, femme, à 35 ans ou 40 ans, peut-être que vous n'avez la chance que d'avoir un ou deux enfants. Donc, les mariages tardifs jouent sur la démographie du pays. Plus on a des mariages tardifs, plus il y aura une chute de la démographie. Un autre facteur, plus il y a des mariages tardifs, plus la débauche va se développer. Parce que à un certain âge, de la puberté, au-delà même de la puberté, qu'on soit jeune fille ou garçon, surtout avec l'influence de la télévision, du téléphone, il y a beaucoup de choses, on est tenté. Et ça peut expliquer aussi le mariage tardif, parce que les gens se marient pour telle ou telle chose, mais quand vous êtes conscient que même quand vous n'êtes pas marié, vous y avez accès, ça peut retarder aussi le mariage. Et ça a des conséquences. Quand vous vous mariez, il y aura rupture au bout d'un certain temps. Ça a des conséquences aussi que, vous voyez, généralement les filles qui ne sont pas mariées jusqu'à 35 ans, 40 ans, elles deviennent des secondes épouses. Ça, c'est une tendance que j'ai observée. Elle a très peu de chances d'avoir un homme à elle seule.
Docteur Touré, quelles sont les conséquences liées au mariage tardif?
C'est la déprivation de mœurs. Il y a une qui vient de lui dire que quand tu prends une ruelle au vestibule, tu vas trouver toujours. Aujourd'hui, quand tu prends, il y a du coin, tu ne peux même pas aller. Pourquoi? Parce que c'est à cause de vraiment, on a dit qu'il faut retarder le mariage. Et pour dire encore, il y a au moins la séparation. Avant, ce n'était pas le jeune mari qui donne tout. Non. C'est les parents qui donnent l'argent de dot. Quand on dit c'est ton papa qui te fait marier, mais aujourd'hui on a changé, c'est le jeune mari qui prend son argent qui amène à son papa. Et quoi? Après avoir arrêté le montant avec la jeune mariée, et que nous acceptons que ce n'est pas ça. Normalement, c'est les deux parents, le papa, parce qu'eux ils savent. Maintenant, quand je dis que j'amène 300 000, mais le papa, comme venait de dire, le papa, c'est que même lui, en mariant la mère de cette dernière-là, en fait, il a dépensé que 100 000 francs seulement. À son temps, il sait. Quand celui amène 300 000, les deux parents vont comprendre. Mais aujourd'hui, il y a une démission totale de tous les côtés. Les parents ont démissionné. On a laissé l'affaire entre les mains des enfants. Et c'est eux qui vraiment fixent le montant du mariage. Et voilà, c'est un des facteurs aussi. Et pour finir, ce facteur, ça nous empêche d'être solidaires entre nous. Il y a au moins cette carence de solidarité, cette carence de fraternité et cette carence d'affection des uns envers les autres. Parce qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, si je sais le montant que je ne sais pas moi, c'est les parents qui ont ficelé tout avec notre accord, vous allez voir, tous les mariages vont marcher 5 sur 5 parce qu'ils savent, s'il y a quelque chose, ils ne peuvent pas se gronder.
Oui, mais comment donc lutter contre tous ces facteurs pour éviter les mariages tardifs des jeunes?
Il faudra que les parents comprennent que vraiment, le fait que les jeunes ne se marient pas, ce n'est pas la faute des jeunes, hein, mais c'est les parents. On doit voir diminuer les prix de ce mariage.
Je pense que dans certaines localités, ça a déjà été fait, mais que la population n'en tienne pas compte.
Madame, ça a été fait parce qu'il n'y a pas de responsable. Parce que là, quand vous dites que vous écrivez noir sur blanc, que ça l'est interdit, si vous le faites, on vous prend et vous êtes sanctionné, vous êtes verbalisé. Comme Kounze le faisait. Vous faites de mariage, on fait des tapages, la police vient prendre les parents concernés. Vous êtes pas, on prend les parents concernés et ils sont verbalisés. Si maintenant on tape, on dit bon, hey, à part d'aujourd'hui maintenant, pour faciliter, parce qu'il y a trop vraiment de ceux qu'on ne veut pas voir, pour arrêter tout cela, le prix de mariage, on fixe à un montant. Ceci, et cela voilà pour toute l'étendue du Niger. Vous allez voir, le mariage va très bien marcher et maintenant les parents vont revenir parce que là on va dire non, ce n'est plus question de deux, c'est les parents qui doivent s'en charger de l'organisation. Madame, vous allez voir maintenant. Tout c'est vraiment se marier en retard, ça va finir. Cela est valable pour nous tous, qu'on revienne sur terre, qu'on comprenne. Ailleurs, ceux qui n'ont pas l'argent, c'est l'État qui les font marier. On peut le faire. On sait que vraiment, et surtout avec notre dynamique, on dit Laboussani, Zanchenkassa, moi avec ça, on peut vraiment organiser, parce que nous sommes en train de s'organiser maintenant, on est en train de prendre un élan de patriotisme, on peut faire marier les pauvres, parce qu'on les connaît.
Merci, docteur Touré. Vous voulez réagir sur la question?
Oui. Uh-huh. Je pense que il l'a dit, il faut réduire les coûts du mariage. Et vous l'avez souligné, si dans une localité, la décision a été prise et qu'elle n'est pas respectée, c'est bien normal parce que à l'échelle nationale, la décision n'a pas été prise. Donc, moi, un chef de village, les gens peuvent me braver. Parce que nulle part, ça n'existe. Mais si c'est une disposition prise à l'échelle nationale, là, les gens seront obligés de respecter la décision. Deuxièmement, il faut aussi lutter contre la débauche. Les lieux publics aujourd'hui, quand vous sortez, vous voyez du n'importe quoi. Il faut interdire cela. Parce que ça contribue aussi au mariage tardif. Les jeunes sont toujours dehors, toute la nuit, entre eux. Personne ne sait ce qu'ils font. Vous m'excusez, ce qu'on pense trouver dans le mariage, ils l'ont.
Pour terminer, M. Mohamed, quel conseil donnez-vous aux jeunes qui ne sont pas encore décidés à se marier?
Le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est que il ne faut pas ramener le mariage à sa dimension purement économique. Le mariage, c'est une entreprise sociale, religieuse, qui ne demande pas forcément des moyens économiques importants. On peut se marier et quand parfois vous observez la vie d'un célibataire et la vie d'un marié, vous verrez que le célibataire parfois dépense plus que le marié. Moi, je me rappelle quand j'étais célibataire, je dépensais souvent plus. Mais quand vous vous mariez, vous allez voir que les choses vous seront beaucoup plus faciles parce que ça vous aide à vous organiser. Ça vous aide à vous responsabiliser, ça vous aide à éviter les dépenses inutiles. Je ne suis pas pour le fait qu'il faut nécessairement avoir une situation stable pour se marier, parce que les situations stables peuvent tarder, elles ne dépendent pas que de nous.
Docteur Touré, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui ne sont pas encore décidés?
Bon, le seul conseil que nous pouvons leur donner, il ne faut pas se focaliser sur la situation économique. Seul Allah, avec sa bénédiction et avec sa clémence, peut vous enrichir dans votre mariage. Et ce qu'il faut savoir aux jeunes aussi, il faudra qu'ils comprennent une chose. On ne peut pas avoir ce que Dieu ne t'a pas donné. On ne peut pas dire qu'il faut construire avant de se marier. Demandez à vos papas s'ils l'ont fait. Je sais, il y a beaucoup qui, avant de se marier, étaient dans des locations. Et donc, vraiment, il faudra prendre l'exemple sur ça. Et surtout, la chose la plus importante, vous dites que vous êtes musulman, alors cramponnez à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ne retardez pas le mariage, parce que sinon, vous risquerez d'enfanter votre petit-fils. Quand vous avez déjà 50 ans, donc vous allez avoir des petits-fils, pas pour vos enfants, ce qu'on appelle des vieux enfants. Donc autant prendre les choses à temps et Dieu mettra sa baraka dans votre union et vous allez trouver de quoi subvenir à vos besoins en ayant des enfants bénis.
Ça a une dimension aussi, une fonction sociale.
Ah ouais.
Avant, quand la jeune fille à 17 ans, 16 ans, se marie, elle a ses enfants. Et les petits-enfants-là seront à un certain âge avec la grand-mère, le grand-père. C'est eux qui s'en occupent.
Ah ouais.
Mais aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus.
Voilà, ici se termine notre émission. En résumé, les mariages tardifs bouleversent en profondeur les modalités des structures sociales et favorisent des relations extramaritales. Le mariage étant étroitement lié à la procréation, le célibat entrave en outre le processus de reproduction biologique qui aurait à son tour un impact sur la démographie du pays. La hausse du prix de la fiancée et des dépenses liées au mariage, largement associées au retard des unions, n'est pas à négliger. Par conséquent, afin de promouvoir les valeurs du mariage, il faudra se fixer pour objectif principal de promouvoir le mariage en s'opposant activement au choix du célibat et en levant les obstacles matériels qui empêchent les personnes nécessiteuses de bénéficier de ce droit. Merci à vous, chers invités, pour votre présence. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Mes remerciements vont également à Seni Isaka qui a assuré la technique. Sans oublier que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook du Studio Kalangu et sur le www.studiokalangu.org.